Yacht Débat.
L'insécurité alimentaire menace le Sahel. Selon des chiffres du Programme alimentaire mondial, plus de 12 millions de personnes étaient menacées par la faim dans les pays du Sahel en 2022. La région est confrontée simultanément à des crises alimentaires, sécuritaires, économiques et sanitaires. Comment garantir la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel, en particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Quelles solutions surtout pour les populations locales? Studio Tamani, Studio Kalangou et Studio Yafa posent le débat dans la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Je ne suis pas seul à la présentation de ce débat. Avec moi, sur ce plateau, ma consoeur Nafissatou Adamou Sirfo de Studio Kalangou au Niger. Bonjour Nafissa.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Qui sont nos invités pour ce débat?
Alors pour ce débat, Martin, nous recevons quatre invités. Il s'agit de Gérard Sanou, il est producteur agricole de la région des Hauts Bassins. Adama Ouedraogo, responsable chargé de plaidoyer au niveau du réseau des organisations paysannes du Burkina Faso. Ada Edwige Sawadogo, elle est présidente de l'association des jeunes filles battantes. Elle représente les femmes sur ce plateau. Enfin, Issa Seydou Ali, formateur à l'association des chefs cuisiniers de la ville de Bobo-Dioulasso. Il réagira en tant que consommateur.
Quatre invités donc pour ce débat, et dans le public nous avons Mariam Koulibaly. Bonjour Mariam.
Bonjour cher public, je ne vous sens pas trop là, on peut s'applaudir s'il vous plaît. Merci.
Public constitué de femmes, beaucoup de femmes, on va vous demander encore de vous applaudir nos mamans s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Martin Kaba, comme les consoeurs l'ont dit, je suis de Studio Yafa, place à présent au débat.
Les populations de la zone sahélienne ont eu des difficultés durant la campagne agricole écoulée. Des difficultés liées à l'installation tardive des pluies et des poches de sécheresse au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Une autre conséquence des changements climatiques. À ce propos, écoutons le témoignage de cette productrice agricole au Niger.
La campagne avait bien débuté, mais vers la fin de la saison, les pluies se sont arrêtées de manière précoce. Certains ont pu récolter quelque chose, mais d'autres non, car les cultures qui étaient sur des terrains durs n'ont pas résisté à la sécheresse. Ce qu'on a perdu est plus important que ce qu'on a gagné. Ici à Massalata, nous cultivons du mil, du sorgho et du niébé. Nous ajoutons aussi d'autres cultures comme le sésame. Moi, j'évalue ma production de cette année à environ 5 sacs. Mais dans les années où ça marchait bien, on gagnait dans les 20 à 25 sacs. La campagne agricole n'a pas été du tout féconde. Le niébé, je n'ai eu qu'une mesure. Or, auparavant, je récoltais 3 à 4 sacs. On est vraiment dans un contexte de changement climatique. Au fur et à mesure, les années ne se ressemblent pas. Nous avions eu beaucoup l'espoir d'avoir une très bonne campagne agricole, mais avec l'arrêt brusque des précipitations, tout a été remis en cause. Vous venez là donc d'écouter un témoignage d'une productrice au Niger sur les conséquences du changement climatique sur cette activité d'agriculture. Alors je commence avec vous, Monsieur Gérard Sanou. Gérard Sanou, vous êtes producteur agricole de la région des Hauts Bassins. Alors, est-ce que ces difficultés que vous venez d'entendre, les difficultés vécues au Niger au sujet de la dernière campagne agricole, ont aussi été ressenties dans votre zone agricole?
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, cette situation, elle est généralisée dans la zone sahélienne. Nous vivons presque les mêmes réalités puisque vous parlez de changement climatique. La mauvaise répartition des pluies, les pluies tardives, les poches de sécheresse qui excèdent souvent 14 jours pendant la campagne, forcément ça joue sur les rendements. Donc c'est une situation que nous avons vécue aussi.
La dame dans le reportage parlait de... Avant, ils avaient 20 à 25 sacs de céréales par an. Présentement, c'est 5 sacs. La campagne agricole vient de s'écouler. Vous, à votre niveau, quel est le bilan que vous dressez?
Bon, je vais dire d'abord qu'il y a un élément qui m'a échappé dans le témoignage de la dame. Je n'ai pas entendu la superficie. Sur quelle superficie elle a fait ce rendement? Ça compte beaucoup. Mais chez nous, vous savez que quand vous prenez les hauts bassins, notamment la province du Houé, généralement, nous arrivons à être en équilibre. Nous sommes rarement déficitaires. Donc même quand ça ne va pas, nous sommes dans le seuil pour ne pas tomber dans le déficit. Voilà, il y a un peu de satisfaction tout de même.
Alors, M. Ouédraogo, est-ce que ce satisfait-ci-là de Gérard, quand même, dans la région des Hauts-Bassins, ça se généralise à l'entièreté du territoire, on va dire, burkinabé?
Merci bien. Merci de nous avoir invités en tant que responsable chargé de plaidoyer au niveau d'IROPSA. Je peux dire que je confirme. Au vu du sorti même du ministre Sombier pour visiter les champs, ces postes de CCRS ont été approuvés. Donc, je peux dire que, en tout cas, avec ces postes de CCRS, il y aura un manque à gagner. Et surtout que la dame vient de parler.
Il y a un manque à gagner.
Il y a un manque à gagner.
D'accord.
Parce que le problème. Quand on regarde le Nébé dont la dame vient de parler, à cette période, quand on voit le coût du Nébé, c'est qu'il y a quelque chose...
Présentement, le coût du Nébé, c'est à combien en fonction de la quantité?
Je pense que quand vous regardez la ville de Ouaga, actuellement, où tout est convergé, ça tourne autour de 1100 francs. Donc...
Quelle quantité?
On peut dire 3 kilos.
OK.
3 kilos.
Et si on, si on fait une comparaison... Vous avez dit 1100 francs. L'année dernière, l'année surpassée, etc., les années antérieures, c'était à combien à cette période?
Bon, à cette période, au moins, le prix n'arrivait pas à cette période, puisque c'est la période des récoltes. Voilà.
C'est la période des récoltes. Voilà. Alors, M. Seydou Ali, vous avez écouté tout ce que les producteurs ont dit avec cette augmentation, etc., de 1100 francs présentement du céréales. Vous qui êtes consommateur, lorsque vous écoutez ça, lorsque vous vivez cette situation, qu'est-ce que ça vous dit?
Je vous remercie. Moi, c'est Issa Seydou Ali. Je suis transformateur et consommateur, chef cuisinier qui représente l'association des chefs cuisiniers du Haut-Bassin. Effectivement, en les écoutant, ça donne un peu la peur dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons déjà de flambée de ces prix, est dû à la nature, voilà, au phénomène naturel, il faut se demander déjà si ça va s'arrêter uniquement qu'au phénomène naturel, s'il n'y a pas l'être humain en question qui est en jeu.
On va en parler d'ailleurs.
Voilà.
Causes, on va en parler.
Voilà, donc je me dis que déjà, ça fait déjà peur.
Ça fait déjà peur. Est-ce que Awa aussi a aussi peur? Vous qui êtes une femme, on sait que nos mamans, ce sont nos mamans qui partent généralement au marché. Vous constatez cela aussi, cette augmentation, et qu'est-ce que ça vous fait?
Bon, franchement, Madame Sabadogo Sanou Ada Edwige, représentante ici des consommateurs, je dirais...
Et
bon,
aussi des femmes.
Des femmes. Je dirais, mais j'ai une question à poser à M. Sanou.
Vous allez déjà répondre à la question que je vous ai posée.
Oui.
Le constat que vous faites lorsque vous partez au marché. M. Ouédraogo a parlé de 1100 francs présentement pour certaines céréales.
Oui.
Lorsque vous faites ce constat, quand vous arrivez au marché et que vous voyez que pratiquement tout a augmenté, vous, en tant que consommatrice, qu'est-ce que vous vous dites?
Bon, en tout cas, ce n'est pas facile. Bon, comme vous dites que de laisser la question
la
d'abord,
question,
sinon
c'était
lié vraiment à ce que je voulais dire.
Allez-y pour la réponse et ensuite vous allez poser la question après.
Il n'y a pas de souci. Sinon, je dirais que ce n'est pas simple, puisque quand tu rentres au marché, tout est cher. Le fait de les prix s'augmentent. Nous-mêmes, consommateurs, on se pose la question, la cause au juste, c'est quoi? Les cultivateurs disent, ils ont raison, que l'engrais est cher. Bon, nous, les consommateurs, on ne peut pas comprendre. Donc, comme il y a une suite, bon, espérons qu'on on pourra mieux comprendre.
On va en parler. Les causes, effectivement, certains parlent des changements climatiques, d'autres évoquent d'autres causes. On va justement en parler. Mais déjà, Monsieur Ouédraogo, les craintes en fait qui sont suscitées au niveau de Monsieur Seydou Ali, est-ce que ce sont vous constatez aussi ces craintes-là dans votre quotidien, vous en tant que représentant d'une organisation de producteurs, est-ce que vous avez ces retours de ces craintes?
Oui. Et si on regarde, par exemple, l'insécurité a joué un peu, les postes de sécheresse ont joué. L'installation tardive des pluies et la chérité aussi des intrants. Là aussi, ça joue aussi pour...
La chérité des intrants, qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
Le coût.
Oui.
Le coût de l'engrais que je vais parler.
Ça a augmenté cette année?
Cette année, oui.
Et c'est à combien?
Autour de 30 000.
Le sac. De 50 kilos.
Oui.
D'accord. Et l'année dernière, par exemple, c'était à combien?
Bon, c'était pratiquement la même chose. Hein.
Donc, ça veut dire que c'est une augmentation qui est globale et qui est ressentie depuis plusieurs années.
Exactement. Exactement.
Est-ce que vous qui êtes consommateur et consommatrice, est-ce que vous comprenez cette explication qu'il donne? Lorsque le producteur vous dit que ce n'est pas à son niveau, c'est l'augmentation des prix des intrants, c'est le changement climatique, etc.
Est-ce que l'insécurité.
L'insécurité, d'accord. Est-ce que vous comprenez?
Bon, à notre niveau, en tout cas, nous, on dira que c'est exagéré.
C'est exagéré.
Voilà, on dira que c'est exagéré, puisque, bon, il y a un plus, c'est trop. Donc, il faut que...
En fait, vous ne supportez pas.
On ne peut pas supporter.
D'accord.
Voilà, et puis, vu les voisins de la maison, quand on leur dit d'ajouter l'agent de popote aussi, eux aussi, ils voient que c'est bizarre. Donc,
les voisins de la maison?
Oui, nos maris.
D'accord. D'accord.
Donc,
c'est difficilement supportable
c'est
pour
difficilement
vous?
C'est difficilement supportable.
J'imagine que c'est le cas pour Seydou Ali.
Je pouvais dire qu'effectivement, je vais dans le même lancer que elle. C'est vraiment difficile de supporter. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, à l'intervalle d'une semaine, et on augmente un seul prix d'un produit à l'intervalle de 2 ou 3 jours, on pense que ce n'est pas normal. Voilà, quelque part, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal.
Voilà.
Gérard Sanou, alors, vous avez écouté les producteurs, les consommateurs. Visiblement, ils accusent quelque part, quand même, les producteurs.
Oui.
Vous qui êtes producteur, lorsque vous écoutez ce qu'ils disent, est-ce que les producteurs sont plus ou moins à la base de ces augmentations?
Plus ou moins, mais je vais vous expliquer, puisque nous sommes là pour également éclairer les consommateurs. D'abord, je m'aligne sur ce que M. Ouédraogo
du
Roxa et même M. Seydou Ali ont évoqué les phénomènes naturels qui ne dépendent pas forcément de nous sont une cause parce que on n'a pas de bonne production, de très bons rendements. Alors que quand on n'a pas de très bons rendements, qu'est-ce qu'on fait? On dit quand on se noie, on s'accroche à tout. Il faut vendre à un prix acceptable pour ne pas faire une campagne vide. Ça, c'est une cause. Mais il y a d'autres causes aussi, notamment l'insécurité. Ça a beaucoup impacté. Mais vous avez un effet domino dans le secteur agricole. C'est-à-dire que quand le coût des intrants augmente, ce n'est même pas ici, hein, depuis l'international, où la diminution de la quantité d'intrants qu'on recevait de l'international, quand on ne reçoit plus cette quantité, le peu qu'on reçoit là, forcément, les coûts augmentent sur le marché. Mais le producteur, lui, quand il va sur le marché pour acheter un sac d'engrais, par exemple, on ne regarde pas son visage, dire que, bon, comme il vient du village, il est dans une situation difficile, on va diminuer le prix de l'engrais pour lui. Non. Depuis maintenant 4 bonnes années, le prix de l'engrais est stationné entre 30 000 à 36 000 francs CFA.
Ce qui n'était pas
le sac de 50 kilos. Pour un hectare, il faut au minimum 6 sacs.
C'est exagéré pour vous.
Alors,
ce qu'on va faire, on va déjà écouter un reportage justement sur cette question d'augmentation des prix des denrées alimentaires. On va passer donc la parole à Nafissa.
Martin, on va écouter donc ce constat de nos confrères du studio Tamani au Mali sur l'impact de cette insécurité alimentaire sur le quotidien des populations au Mali.
L'arachide et l'huile sont les produits les plus accessibles en ce moment, nous confient des commerçants rencontrés dans différents marchés de Bamako. Les légumes ainsi que les céréales n'ont pas encore atteint les prix souhaités.
La laitue se fait rare. On ne trouve que quelques concombres dans les jardins. Le prix du sac n'est pas stable.
Le millepilé, ça c'est 16 000. Le maïs, 14 500. Le riz gambiaka, 23 500. Les folios, ça c'est 35 000 pour les sacs de 50 kilos.
Les jardiniers nous cèdent le seau des feuilles de patates à 750 francs, voire 1000 francs, et le sac à 5 000 francs.
La viande avec os coûte 3 000 francs et sans os, c'est cédé à 3 500.
Ce matin, le marché hebdomadaire de Ségou est fourni en céréales et légumes de tout genre. Mais c'est tout le contraire à Tombouctou, où l'insécurité continue d'impacter l'accès aux denrées.
Les légumes coûtent cher à Ségou. On dirait que ces légumes ne sont pas produits à Ségou.
Les kilos de sucre ont connu une certaine hausse. Le lait, bien d'autres produits également, l'axe Tombouctou-Goundam, où certains produits aujourd'hui ne parviennent pas à venir.
Alors, ce sujet le montre assez clairement. L'une des conséquences de l'insécurité alimentaire est la cherté de la vie. Et dans la première partie de ce débat, il était ressorti que cette inflation des prix est ressentie ici au Burkina Faso. Alors, Seydou Ali, qu'en est-il vraiment de cette situation concrètement aujourd'hui?
Je vous remercie. Moi, à mon niveau comme transformateur et consommateur, je pouvais dire que ce phénomène se situe en plusieurs niveaux. Dans un premier temps, comme on avait suggéré le problème, c'est au niveau de la nature elle-même qui impacte sur la production. Mais non seulement la nature, je vais soulever encore un point très capital et qui est le commerçant en quelque sorte. Si je ne vais pas défendre les producteurs ici, mais puisque je suis consommateur, le commerçant, quand il va vers le producteur, il n'y a pas un prix standard de ce qu'il a payé pour revendre. Et du coup, qui prend les pots cassés? C'est nous, les consommateurs. Voilà. Donc,
vous accusez alors les commerçants aujourd'hui?
Ah oui, je les mets dans la danse. Hein. Voilà, je les mets dans la danse. Les commerçants, excusez-moi, je les mets dans la danse, mais je suis dans la peau du consommateur ici. Mmh. Parce qu'on n'est pas sur le terrain avec les producteurs et pour savoir c'est ça qui est payé là et c'est ça qui revend là. Mmh. Nous, on est en face du commerçant.
Il y a les commerçants dans la salle qui pourront bien sûr prendre la parole à un moment donné pour vous répondre. Okay. Mais déjà, puisque vous êtes là, Awa, est-ce que ce qu'il dit, vous en tant que consommatrice aussi, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, il parle de la nature, il parle des commerçants. J'ai l'impression qu'il dédouane un peu les producteurs. Est-ce que c'est le cas chez vous?
Oui, bien sûr, on accuse les producteurs. Puisque même aujourd'hui, quand tu payes un sac de riz à 25 000 francs, demain, le même sac, deux jours après, le même sac, tu vas le payer à 25 000 francs, à 30 000 francs plus tôt. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, franchement, c'est inexplicable.
C'est inexplicable pour vous?
Puisque ce n'est pas en deux mois, ce n'est pas en trois mois, en deux jours. Et les commerçants te diront que non, que les prix ont augmenté. Bon, nous, on ne fait que prendre, mais on n'a pas le choix.
Vous n'avez pas le choix.
Puisqu'on a faim.
Alors, Gérard Sanou, Monsieur Ouédraogo, vous qui êtes au niveau vous qui êtes producteur et au niveau d'une organisation de producteurs, lorsque vous écoutez justement ces argumentaires en fait de ces consommateurs, est-ce que vous vous dites enfin que ce n'est pas vous la cause de cette inflation se situe à un autre niveau. Est-ce que vous jouez votre rôle, en fait, vous qui êtes d'une organisation de producteurs, M. Ouédraogo?
Ok. Merci bien. Et je pense que ici, les torts là sont partagés, comme l'a dit mon voisin. Parce que quand vous regardez, beaucoup de fois, c'est les commerçants qui ont le monopole du prix même des produits. Parfois, c'est eux qui viennent fixer leur prix. Et le producteur est obligé de donner, parce que c'est des produits périssables. Donc, ce qui fait que nous, à notre niveau, les aléas climatiques, la main-d'œuvre que je n'avais pas soulevée, font des problèmes pour nous. Mais, quand vous regardez, il y a beaucoup d'intermédiaires qui font qu'il y a eu cette augmentation aussi qui est là. Donc, on n'est pas les seuls responsables.
Vous n'êtes pas les seuls responsables. Alors, ce qu'on va faire, Mariam... Mais vu que les commerçants sont indexés, je sais qu'il y a certainement des commerçantes dans la salle. Est-ce qu'il y a une commerçante qui veut prendre la parole et justement expliquer ce qui est en train de dire? On estime ici que ce sont les commerçants qui sont à la base de cette augmentation.
Ouattara Fatima Tali. Bon, ami yɛrɛ bɛ taa Kongo ni kɔnɔ na, an bɛ taa ta ni sɛnɛkɛla ninnu yɛrɛ lo fana b'a exagérer fana kojugu. Bon, an bɛ se ka taa u bɛ tomati d'an ma 6,000 to 7,000. An mana na a di 8,000 to 8,500. An tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la, an b'a feere fo ka dɛsɛ. Donc, u b'a fɔ ko an n'u yɛrɛ lo, ka sɔrɔ an n'u yɛrɛ fana tɛ. Maya.
Un homme, s'il vous plaît.
Moi, c'est Zengue Hugues.
Oui. Allez-y.
Voilà, selon moi en tout cas, le gouvernement doit indexer un prix sur tous les deux côtés, y compris parce que ceux qui partent à cité, eux, leur coût de transport et consort, et eux, ils ajoutent là-dessus pour gagner quelque chose.
Une commerçante ici, Fatimata, qui dit que c'est au niveau des producteurs. Voilà ce qu'elle a dit, le prix d'un sac par exemple, elle achète entre 30 et 35 000. Elle estime que c'est assez cher quand même. Voilà, un panier de tomates, voilà, 30 à 35 000 gérards, c'est assez cher pour elle.
Oui, mais en vérité, celle-même qui a parlé, c'est comment ça se passe. Il y a des intermédiaires qui préfinancent des campagnes pour des producteurs. C'est-à-dire, elle vient acheter, mais elle va donner des intrants aux producteurs. Et quand elle donne des intrants aux producteurs, naturellement, c'est elle qui vient avec le prix du marché. Sinon, le producteur lui-même, généralement, quand il produit, il ne sait même pas à quel prix il va vendre d'abord. L'intermédiaire vient le trouver avec le prix du marché. Et si vous venez avec un autre prix, trouvez que le producteur avait déjà donné à un prix qui l'arrange, naturellement qu'il ne va pas accepter baisser le prix. Mais le monsieur a dit quelque chose de très juste. Il y a rare de filières agricoles au Burkina qui ont une structure des prix. Excepté les produits d'exportation. Là-bas, c'est bien organisé. Il y a un prix, même si souvent les prix quittent à l'international, venir les trouver ici, il y a un prix du marché. Mais la plupart des filières sont en quelque sorte des filières négligées. Donc, les acteurs eux-mêmes, des organisations de producteurs, il faut noter que les organisations de producteurs là, sont constituées par différents maillons, à savoir la production, la transformation, la commercialisation. Au minimum, c'est 3 maillons. Normalement, ce sont ces structures-là qui devraient travailler à fixer un prix du marché. Mais vous connaissez le niveau de nos organisations. On est en train de se battre, mais on n'a pas atteint d'abord le niveau où une interprofession, par exemple, peut fixer un prix. Sinon, si on y arrive, on verra que les choses vont se réguler d'elles-mêmes.
Vous estimez donc que c'est une absence ou un manque d'organisation au niveau des producteurs? C'est cela?
C'est l'insuffisance. Puisqu'il y a les organisations, mais elles n'arrivent pas. Aujourd'hui, vous prenez une union provinciale, par exemple, dans le Houé, elle ne tient pas face à un bon intermédiaire. Toute une organisation peut fixer un prix dans une province, mais un seul intermédiaire qui vient acheter le produit avec son argent peut tout bouleverser. Nous sommes dans cette situation en réalité.
Oui, ma question va à l'endroit de Issa Seydou. Vous êtes, vous représentez les consommateurs. Alors aujourd'hui, face à tout ce problème qui a été évoqué concernant l'inflation des prix des produits, aujourd'hui, il n'existe aucun dispositif au niveau du gouvernement pour fixer les produits, pour recadrer les prix sur les marchés.
À cette question, madame, je ne pouvais pas vous donner juste la réponse. Mais en ce que je sais, il pouvait le faire. Il pouvait le faire du moment où il va trouver une solution aux producteurs. Parce que les producteurs, déjà, ils évoquent la question des intrants. Et ça, si le gouvernement met à leur disposition ces intrants moins chers, je pense qu'on trouvera une solution à ces problèmes.
Il faut noter qu'on n'a pas un représentant, malheureusement, du gouvernement sur ce plateau. Nous avons tenté d'en avoir, mais malheureusement, le temps était... assez court, mais déjà, on va passer à un autre aspect, monsieur Ouédraogo. Alors, dans les causes, c'est vrai, vous avez dit que les producteurs ne sont pas les seuls concernés. Vous avez parlé de l'insécurité, des changements climatiques. Parlez-nous de façon vraiment concrète pour que le public puisse comprendre et que les auditeurs comprennent. Quand on parle de l'insécurité comme cause de l'inflation et de l'insécurité alimentaire dans notre pays, au Burkina Faso et dans la sous-région du Sahel, concrètement, comment cette insécurité a un impact sur la sécurité alimentaire?
Merci beaucoup. C'est pour vous dire que s'il y a 3 personnes qui faisaient la production et qu'aujourd'hui, ça devient 2 personnes ou une personne, vous comprenez que ce n'est pas simple. L'insécurité a fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés internes et les terres ont été abandonnées. Mais ces gens aussi doivent manger. Donc, tous ces gens qui produisaient, aujourd'hui, ils ne produisent plus. Donc, c'est un problème. Et comme il y a aussi le problème naturel qui est les changements climatiques...
Avant que vous ne continuiez sur cet aspect, il faut rappeler que le Burkina Faso a plus de 2 millions de déplacés internes présentement.
C'est ça.
Allez-y.
Voilà. Et comme il y a les facteurs naturels qui sont là, on a eu les poches de sécheresse cette campagne, la chérité des prix. Donc, ce qui fait que c'est compliqué. Donc, certainement, il y aura un manque à gagner. Donc, c'est dû à tous ces problèmes-là.
C'est dû à tous ces problèmes.
Voilà.
Vous comprenez cette explication, monsieur Ouédraogo?
Oui, je suis d'avis, vraiment. L'exemple qu'il a pris, c'est très simple. Si on a au moins 4 qui produisaient, aujourd'hui, c'est un qui produit pour ces 4, c'est un peu compliqué. Et je suis d'avis.
Oui. Alors, on va écouter encore un reportage, Nafissa.
Oui, Martin, comment s'adapter donc aux aléas climatiques, l'insécurité et tous les blocages pour continuer de produire dans les champs et nourrir les populations? Au Burkina Faso, une nouvelle variété de sorgho a été mise en place, plus facile à produire. Elle résiste aux aléas des pluies et s'adapte facilement à plusieurs types de sols. Découvrons cette innovation dans ce sujet de nos confrères de Studio Yafa.
10 mars 2023. Normalement, ce n'est pas encore la période des semis, mais dans le champ de l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole du Burkina, INERA, Dr Noufou Ouédraogo et quelques étudiants munis de dabas et de graines sèment du sorgho sur un quart d'hectare.
On est dans le processus de création de nouvelles variétés. Et dans ce processus-là, le temps joue contre nous. Et quand le temps joue contre toi, tu es obligé, juste quand tu veux récolter, il faut semer pour avancer rapidement en génération. Donc, on peut semer 3 fois dans l'année quand vous développez une nouvelle variété.
Si vous avez fini là-bas, il fait chaud, demain on peut continuer.
Depuis une dizaine d'années, Dr Noufou Ouédraogo développe de nouvelles variétés de sorgho. Objectif, trouver régulièrement des variétés qui résistent aux maladies et aux aléas climatiques. De son expérience de chercheur et sélectionneur de sorgho et de maïs, Noufou Ouédraogo a pu constater les potentialités de la plante. Des potentialités qui font dire aux chercheurs que le sorgho est une céréale d'avenir.
Le sorgho requiert moins de fertilisants que le maïs. Il a 2 fois moins, voire 3 fois moins de besoins d'eau que le maïs. Donc du coup, ce sont ces faits-là qui font dire que le sorgho est une culture d'avenir.
Originaire d'Afrique du Nord-Est, le sorgho est cultivé partout au Burkina Faso. Il s'adapte à tout type de sol, mais se développe plus dans les zones semi-arides, selon le chercheur Noufou Ouédraogo. Un avantage pour des pays comme le Burkina, menacé par la sécheresse.
Alors Gérard Sanou, je rappelle que vous êtes producteur agricole de la région des Hauts-Bassins. Que pensez-vous de cette innovation pour s'adapter aux aléas climatiques?
Justement, je suis producteur agricole, entrepreneur innovateur agricole. Je note l'apparition de la recherche dans ce débat. C'est très important. Il faut dire que, nous on le dit, hein, le sol, là, c'est un support. Notre environnement, il nous appartient. Quand on connaît nos problèmes, normalement, si tous les acteurs sont exploités à leur juste valeur, on doit forcément trouver des solutions. C'est en cela que le rôle de la recherche est très important. Nous-mêmes, nous avons par exemple des parcs de technologie où nous essayons de démontrer comment on peut s'adapter à cette situation nouvelle. Pourquoi ? Nos terres, vous allez voir que dans nos villages, rares sont les terres qui ont moins de 50 ans d'exploitation. Donc ça veut dire qu'on parle de la rareté des pluies et tout, mais il y a même le facteur sol qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir des semences qui rentrent dans le cadre de la précocité et qui sont résistantes aussi face à ces aléas climatiques. Et aujourd'hui, on a des réponses, même s'il y a un problème aussi au niveau de la recherche, à savoir que les résultats de la recherche ne sont pas suffisamment vulgarisés. Souvent, on est à côté d'une station de recherche qui a une solution à notre problème, mais on n'est même pas au courant. Donc, voici une autre situation voilà, que nous vivons.
Que vous vivez. Et au niveau du manioc, parce que vous êtes dans le domaine du manioc, oui, c'est y a aussi de l'innovation à ce niveau.
Justement, oui. Je suis le président de l'Union provinciale de production de manioc, du OUE. Il faut dire que le manioc, de prime abord, on le colle au pays côtier. C'est ça. Pourtant, il réussit très bien chez nous. Nous avons des sélectionneurs qui ont travaillé sur des variétés de manioc, même si la précocité, ce n'est pas comme dans les pays côtiers. Ici, c'est une culture annuelle, mais ce sont des variétés qui résistent à la sécheresse. Nous plantons le manioc en août-septembre, mais le manioc là, va traverser toute la saison sèche jusqu'aux pluies.
Alors, voilà. M. Ouédraogo, cette question d'innovation, est-ce que vous, au niveau du ROPSA, vous êtes une organisation de producteurs, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, en fait?
Merci. Je pense que, même quand j'étais petit, mon père m'a dit, toujours conseillé qu'il faut entretenir le champ comme ma maison a couché. Parce que si tu ne l'entretiens pas, ça ne marche pas. La maison, tu pars te coucher là-bas, qu'est-ce qui te rapporte? Alors que les champs, tu rapportes plus. Donc, je pense que, et même cette année, les gens ont compris que il faut des innovations. Surtout que l'engrais est cher, il faut aller au compost, que nous-mêmes, on peut produire chez nous. Et ça résiste même. Quand il y a les poches de sécheresse, les cultures résistent mieux. Donc, en tout cas, nos chercheurs, en tout cas, nous ont apporté beaucoup de choses et que nous-mêmes, nous devrons l'adopter. Si on n'adopte pas, ah mais ça ne pourra pas.
Ça ne pourra pas. Et justement, cette question, j'irai aborder un peu la question. Il faut adapter la culture au sol. Est-ce que cela aussi peut aider, vous pensez, à juguler un peu la situation?
Mais bien sûr.
En fonction de la production, bien sûr.
Bien sûr. Par exemple, quand tu es au plateau, tu veux produire du maïs. Ce n'est pas la même chose que tu veux produire du maïs au bassin ou dans la boucle du Moun. Donc, il faut l'adapter au sol. Voilà la spéculation par rapport au sol.
Alors, donc, est-ce que pour vous, c'est l'une des solutions aussi, M. Seydou Ali, c'est adapter les spéculations au sol et aussi aller dans l'innovation? Est-ce que pour vous, en tant que consommateur, lorsqu'on vous demande, vous pensez que ça peut aider justement à juguler un peu cette flambée des prix des produits alimentaires?
Je vous remercie. Je pense que dans ce lancer, c'est l'innovation est bien arrivée. Mais il faut quand même la formation pour les innovateurs. Ceux qui vont faire ce boulot, il faut les former. Parce qu'il ne faut pas aller dans l'innovation pour aller. Mais qu'est-ce que, après, l'innovation va nous donner comme résultat? C'est ça d'abord.
C'est là toute la question. Voilà. C'est aussi votre avis, Ada?
Oui, Et oui. C'est la bienvenue.
Il faut penser à l'innovation.
Il faut penser à l'innovation.
Oui.
Mais sur ce point, j'aimerais rassurer Ali. L'innovation tient compte, bien sûr, de la résistance, du rendement, mais aussi de la qualité organoleptique. Parce qu'il faut que le produit soit au goût du consommateur pour être adopté aussi. Donc, tous ces facteurs-là sont pris en compte dans l'innovation.
Alors, au-delà de cette question d'innovation, d'adaptation, de la spéculation au sol, est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous, en tant qu'acteur ici, vous proposez pour permettre de parvenir au Sahel à la sécurité alimentaire? Si quelqu'un veut prendre la parole. Est-ce qu'il y a des solutions que vous estimez qui peuvent aider?
Bien sûr, il y a des solutions. Oui. Il y a des solutions. La première solution, c'est de travailler moins individuellement. Le travail communautaire qu'à un moment donné, on a commencé à abandonner, là, doit revenir. Parce que c'est ce qui permet de prendre soin des sols, comme M. Ouédraogo l'a signalé. Parce qu'il y a certains dont les actes négatifs posés là jouent sur ton travail. C'est-à-dire quand ils sont en amont et qu'ils ne prennent pas soin de leur sol, ça joue sur toi.
Les actes
voilà, les actes négatifs, ça impacte.
Les actes négatifs,
par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez le secteur agricole, où un grand pourcentage des productions sont sous régime pluvial, après les pluies, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les arbres, il faut vendre le bois pour survivre et tout, et même l'utilisation abusive des pesticides et autres. Tu peux ne pas en utiliser parce que tu es dans une production quand même soucieuse de la protection de l'environnement, mais celui qui est en amont, s'il le fait, ça t'impacte. Donc, ça nécessite qu'on se communique et qu'on travaille ensemble pour que nos actes positifs là prennent le dessus sur les actes négatifs, pour que les actes négatifs soient minimisés. Ça, c'est un. Mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, le terme, on l'utilise beaucoup, la résilience. La résilience, il faut être résilient. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on doit baisser les bras. On doit travailler dur dans cette situation-là pour s'en sortir. Et enfin, il faut qu'au niveau de la production, on comprenne que quand on ne veut pas que la sueur coule beaucoup, on va suer dans les poches. Aujourd'hui, si on ne veut pas trop se fatiguer, parce que fertiliser un champ, récupérer un sol, c'est un boulot. Celui qui le fait, moi je le dis parce que nous on a commencé le compostage avec les résidus de récolte actuellement. Ça veut dire qu'on est en activité jusqu'à l'hivernage, alors qu'on vient de sortir de l'hivernage. Mais si tu le refuses, cela voudrait dire que tu vas débourser de l'argent
pour tout acheter. Les gens, vous voulez dire que les gens ne font pas assez d'efforts, en fait, pour...
C'est comparé, hein.
Oui.
Monsieur Ouédraogo le sait.
Il va d'ailleurs...
Nous comparer aux Algériens, aux Israéliens, aux Néerlandais, on ne travaille pas.
D'accord.
Je suis désolé de le dire,
d'accord.
Mais il faut encore beaucoup d'efforts.
Monsieur Ouédraogo est là, de toute façon, il représente les producteurs de façon générale. Qu'est-ce que vous en dites? Les producteurs burkinabés ne font pas assez d'efforts?
Bon, vous-même vous le constatez, hein? Vous-même vous le constatez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faudra aussi qu'on travaille. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter même le gouvernement pour ses initiatives, pour qu'on puisse travailler pendant la saison sèche. Parce que si on va toujours attendre qu'il pleuve et qu'on travaille, on n'aura toujours pas à manger suffisant. Mais avec les initiatives pour l'irrigation, je pense que ça aussi, c'est des alternatives qui pourront nous aider.
Là, vous parlez de la culture de contre-saison.
De contre-saison, voilà. Puisqu'on peut produire, pour qu'on puisse produire toute l'année, au lieu de produire 4-5 mois et puis consommer 12 mois. Ce n'est pas possible. Et l'autre élément, qu'on compte sur nous-mêmes. Et je salue.
Ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas le cas.
Ah non.
D'accord.
Ah non. Parce que depuis qu'on est là, on parle de sécurité alimentaire. Nous, on voudrait que ça soit la souveraineté alimentaire. Et je salue les autorités pour ça. Je veux qu'ils prennent ça même dans les politiques. Puisque si c'est nous-mêmes, on ne compte pas sur quelqu'un, vous allez voir que tout le monde va travailler. Personne ne va rester. Mais actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup. Bon, même s'ils restent, on va les donner à manger. Et là, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte.
Est-ce qu'il y a justement des initiatives, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, qui pourraient inspirer les autres producteurs, justement. Est-ce que vous avez connaissance de certaines initiatives?
Oui, il y a l'irrigation, que beaucoup de pays mettent en place et à travers les forages, les châteaux d'eau. Et nous-mêmes, on voudrait qu'on suggère au pays même d'aller vers le transport d'eau.
D'accord.
Voilà.
Précisément, qu'est-ce que vous voulez dire,
le transport d'eau. Oui. Par exemple, on prend la boucle du Moon, qu'il y a beaucoup d'eau, mais on peut le canaliser, aller au centre-ouest, qui sont des sols un peu hauts, qu'ils peuvent travailler même pendant la saison des pluies.
Comment cela peut se faire?
Ah ben,
par la canalisation.
La canalisation.
Oui, d'accord.
L'ONEA tire l'eau à partir d'où pour les villes, mais ce n'est pas la production qu'on ne peut pas le faire. Ah oui.
Vous approuvez cette solution, monsieur Ali?
J'approuve. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va se positionner aux anciennes méthodes, on ne s'en sortira pas. On va au rythme de la nature. Et plus la nature change, plus les êtres aussi doivent changer. Et même dans la Sainte Bible, excusez-moi, Dieu même à un moment donné a changé les données. Et pourquoi pas les êtres humains? On doit changer les données. Voilà.
Des solutions à proposer aux producteurs?
L'innovation. Oui. En tout cas, comme ils ont beaucoup parlé de l'innovation, je sais que si réellement ils arrivent à mettre ça en place, ça va beaucoup aider nous, les consommateurs. Donc, j'encourage cela.
Alors, Ada, vous aviez une question qui vous tenait à cœur. Je n'ai pas oublié. Je vais vous permettre de poser votre question et je vais la reprendre pour Gérard.
Okay. Oui. Bon. Et la question était que vous parlez de l'innovation, de la cherté des intrants, de la matière première, mais pourquoi jusqu'à présent on ne trouve pas le moins cher sur le marché?
Alors Gérard, malgré tous les efforts donc des acteurs que vous êtes, malgré tout ce qui est fait, les prix des produits ne baisse pas. C'est ce que vous voulez dire. Alors, pourquoi, malgré tout cela, il n'y a pas de baisse sur la place du marché?
En fait, la question, je peux répondre, mais elle est lourde. Elle est lourde. Pourquoi? Le secteur agricole appartient à l'État. Ça veut dire que c'est à l'État de prendre soin de son secteur agricole pour soulager les consommateurs.
Oui, on vous répondra que voilà. L'État, c'est tout le monde. L'État,
oui, oui.
Ce n'est pas qu'un individu.
L'État, c'est tout le monde. Et je vous enverrai consulter la loi 070 portant orientation agro-silvopastorale. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est depuis le sommet de l'État qu'on décide des politiques. Nous ne sommes que des exécutants. Hein. Nous sommes des acteurs, mais nous nous exécutons. Mais on nous donne des orientations. Et dans notre orientation, vous allez remarquer que Le manque à gagner, c'est l'aide alimentaire et les importations. Donc, ça veut dire que l'État a sa solution. Voici pourquoi vous ne sentez pas beaucoup d'efforts au niveau de la production pour soulager tout le monde. Si le producteur, c'est le premier consommateur lui-même. Ça veut dire que l'impact, c'est que vous ressentez, nous-mêmes, nous ressentons
Mais
ça au niveau de la
pas
production.
Est-ce que c'est un peu exagéré?
Non, c'est... On a toujours
Alors,
parlé,
là,
par
elle
exemple...
Elle est en train de parler en tant que consommatrice.
Oui, oui.
Ça vient du cœur, comme on
oui,
le dit.
Oui, elle parle en tant que consommatrice. Monsieur Ouedraogo pourrait m'appuyer. Pendant les travaux champêtres, s'il y a quelque chose qui nous revient, qui nous coûte également cher, c'est l'alimentation même de nos ouvriers quand ils viennent pour travailler. Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous subissons ça. Ça veut dire qu'on a même envie qu'on trouve une solution pour nous décharger de tout ça. Mais enfin, il faut dire que la politique de la subvention, là, elle doit bâtir, elle ne doit pas être orientée rien que dans le vulnérable. C'est pour cela qu'on fait du surplace. Au lieu de propulser les zones à fort potentiel, on pense à soutenir les vulnérables. Et par fini, ceux même qui ont un fort potentiel finissent par être vulnérables.
Vous estimez qu'il ne faut pas soutenir les vulnérables?
Il faut soutenir les vulnérables, mais il faut avoir à l'esprit que ceux qui ont un fort potentiel là, c'est à eux-mêmes les vulnérables là, doivent s'adosser pour se relever. Mais si eux, on les oublie, parce que regardez la cartographie
au niveau des appuis dont les différentes régions bénéficient de l'État, vous allez voir qu'une région comme les Hauts-Bassins, c'est la deuxième région d'élevage, et c'est une région qui a un fort potentiel en termes de production, à moins de projets que le Sahel, par exemple, à moins d'appui que le Sahel ou l'Est, par exemple. Voilà, c'est pour cela que moi j'ai dit, si on appuyait très bien une telle zone, parce que son potentiel est avéré, elle peut même appuyer plus tard les autres zones qui n'ont pas un fort potentiel pour que bon, voilà, l'émergence là soit totale, qu'il y ait un nivellement. Quoi. Mmh. Sinon, ce qui se passe, c'est comme si on note le pain de la bouche de Pierre pour mettre dans la bouche de Paul.
Les causes de l'insécurité alimentaire, on a parlé de l'insécurité de façon générale dans les pays du Sahel, on a parlé aussi des changements climatiques et aussi la pauvreté des sols, entre autres causes qui ont été énumérées ici. Les solutions, on a parlé de l'adaptation à travers l'innovation justement, l'innovation scientifique et la culture de contre-saison, la culture aussi hors-sol. Et il faut mettre surtout l'accent sur l'agriculture. Ce sont les solutions qui ont été proposées ici, entre autres. Et les conséquences, bien sûr, de l'insécurité alimentaire, c'est la cherté des prix des produits et denrées alimentaires et même l'indisponibilité totale de certains produits sur la place du marché. Nafissatou, on va donc mettre fin à cette émission. Et pensée est conçue par les trois projets de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Kalangou, Studio Yafa et Studio Tamani, les invités.
Oui, Martin, et pour ces échanges sur la sécurité alimentaire, nous avons reçu Gérard Sanou, autant pour moi, producteur agricole de la région des Hauts-Bassins, Adama Ouédrago, responsable chargé du plaidoyer au niveau du réseau des organisations paysannes du Burkina Faso, Issa Seydou Ali, il est formateur à l'association des chefs cuisiniers de la ville de Bobo-Dioulassou, qui était ici en tant que consommateur. Enfin, Ada Edwige, présidente de l'association des jeunes filles battantes, et elle représente les femmes sur ce plateau.
Si Martin, notre public est constitué d'une centaine de personnes, membres de trois associations basées ici à Bobo-Dioulassou, Burkina Faso, et aussi d'étudiants. Dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez droit à la parole, cher public. Vous poserez aussi vos questions et si vous avez des contributions aussi.
Merci. Il y a débat.